Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous dominical ce dimanche matin, Tendance Confidence. Aujourd'hui, les confidences de François Audinet, qui est prêtre dans le diocèse du Havre, dans les quartiers nord. Merci de vous présenter dans votre itinéraire de vie.
Alors, je peux dire d'abord que je suis un Normand, j'ai grandi près de Fécamp, je suis allé au collège et au lycée à Fécamp. Je suis prêtre depuis 8 ans au Havre, donc je ne sais plus tout à fait le pays de Caux, mais c'est encore bien la Normandie. Et je partage mon temps entre la mission en paroisse dans les quartiers nord du Havre, à l'église du Sacré-Cœur. Et puis d'un autre côté, j'enseigne la théologie dans une petite université qui s'appelle le Centre Sèvres à Paris.
Est-ce que vous prenez de temps en temps le pont de Normandie pour venir du côté de Honfleur, de Caen ou bien d'Alençon ou Cherbourg ?
Alors j'aime beaucoup aller du côté de Honfleur et j'aime beaucoup aller aussi dans la baie du Mont-Saint-Michel, du côté de Granville, de Julouville. C'est des endroits pour moi qui sont synonymes de marche, de baignade et de repos.
Donc baie de Seine et baie du Mont-Saint-Michel.
Exactement.
Alors merci de nous présenter cette paroisse dont vous êtes curé dans le diocèse du Havre.
Alors les quartiers nord du Havre, c'est pas un quartier où on va vraiment trouver des industries. Par contre, c'est souvent des quartiers qui ont été construits pour loger les gens qui venaient travailler dans les différentes usines de la baie de Seine. Je peux dire que c'est des quartiers, donc la Mare aux Clercs, la Mare Rouge, Montgaillard, le Bois de Bléville, où on trouve des gens venus d'un peu tous les pays du monde, et ça se retrouve vraiment dans la communauté paroissiale. C'est des quartiers où il y a une grande diversité religieuse, une forte communauté musulmane, une communauté catholique aussi, et je dirais c'est une communauté vraiment fraternelle, vraiment joyeuse, avec beaucoup de gens pour qui la vie n'est pas facile, mais du coup avec une paroisse qui est vraiment un lieu de rencontre, d'entraide, de fraternité, et une paroisse où il y a beaucoup de petits groupes aussi. Donc c'est pas seulement un lieu où on se retrouve tous les dimanches, mais un lieu qui vit en semaine avec pas mal de groupes fraternels.
Avec vous, nous allons parler pendant cette émission de ce mot de solidarité. Que feriez-vous comme distinction, si vous en faites une, entre les mots de précarité, de pauvreté et de misère ?
On peut dire que ça va un petit peu ensemble. La misère, ça désigne vraiment un dénuement, et on peut dire la pauvreté, ça désigne quand un peu tout nous tombe dessus, c'est-à-dire il y a d'un côté la misère avec le fait de n'avoir pas d'argent ou d'avoir vraiment des fins de mois qui sont tout le temps difficiles, d'avoir pas de logement aussi par exemple, ou un logement qui est très précaire. La pauvreté, ça désigne aussi le fait que on pense que vous valez pas grand-chose, on vous met à l'écart, voilà, vous comptez pas pour grand-chose. Et puis ça peut désigner aussi le fait que personne ne vous demande jamais votre avis, que votre parole ne compte pas.
Dans ce livre dont nous allons aussi parler avec vous, qui a pour titre « Les derniers seront les premiers », c'est paru aux éditions de l'Emmanuel, est-ce que peu à peu, dans les décennies qui se découlent, pour en arriver jusqu'en 2022, est-ce qu'il y a de nouvelles formes de pauvreté qui se mettent en place ?
Alors on peut dire qu'il y a de nouvelles formes de pauvreté parce que on vit dans une société qui, depuis les années 70, a été globalement une société du bien-être, où beaucoup de gens ont eu un niveau de vie plutôt confortable. Et malgré ça, il est toujours resté quelques pourcentages de la population qui ont vraiment eu la vie difficile et qui ont fait l'expérience de l'exclusion. Et puis aujourd'hui, on voit que cette pauvreté, elle est en train à nouveau d'augmenter. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, des gens qui ne sont pas dans la rue, mais qui ont un logement où vraiment ce n'est pas facile d'habiter, des gens qui n'arrivent pas à trouver de travail pendant des années, etc. Et puis l'autre forme de pauvreté qui augmente, c'est des gens qui arrivent de l'étranger et qui ont souvent traversé des choses très difficiles pour arriver jusqu'en France, qui, une fois arrivés, doivent patienter pendant des années pour avoir le droit de travailler, le droit de s'insérer dans notre société.
Un livre que vous avez dirigé en mai 2022 aux éditions de l'Emmanuel, le titre « Les derniers seront les premiers ». Le titre, bien sûr, fait penser aux évangiles.
Tout à fait, c'est une phrase de Jésus dans l'évangile qui dit « Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers ». Alors cette phrase, soit on la comprend comme une menace, soit on la comprend comme une promesse. Alors la menace, c'est si on se sent dans la position des premiers et qu'on a peur de perdre notre position privilégiée. Moi, je crois que c'est vraiment une promesse. C'est une promesse pour les derniers. C'est dire que, pour moi, comme chrétien, je crois que Dieu est venu d'abord vers les derniers. Il a commencé par ceux qui sont tout au fond, ceux par qui nous, on ne commencerait pas. C'est par eux qu'il commence pour montrer son amour, pour venir vers l'humanité. Mais je crois que dire que les derniers seront les premiers, c'est aussi une promesse pour les premiers. C'est leur dire qu'ils ont quelque chose à apprendre des derniers. Ils ont quelque chose à apprendre des gens vers qui ils ne pensaient pas aller, des gens à qui ils ne pensaient pas demander leur avis. Et bien, s'ils se mettent à leur écoute, s'ils laissent ces gens-là passer en premier, il y a aussi une promesse pour eux.
J'entends, lorsque j'écoute vos propos, François Audinet, je rappelle que vous êtes prêtre dans le diocèse du Havre, j'entends très vite le mot partage ou le mot solidarité.
Oui, tout à fait. Le mot partage. Et si ce livre est né, c'est parce qu'on fait l'expérience dans beaucoup de communautés chrétiennes de partager avec des gens pour qui la vie est difficile. Le partage, ça désigne d'abord la rencontre, la fraternité, le fait de partager le repas, par exemple. Je peux dire que dans ma paroisse, c'est une réalité importante. Mais aussi l'idée de partager l'évangile, c'est-à-dire de se mettre ensemble à l'écoute du chemin de Jésus, de la parole de Jésus, et de découvrir que quand on se met à l'écoute de cette parole avec des personnes qui ont la vie difficile, comme on en voit plein dans l'évangile qui rencontre Jésus, ces personnes, elles nous donnent un éclairage singulier, intéressant, important. Et là, ce qu'on partage, c'est la foi, mais c'est même ce qu'il y a de plus précieux dans notre humanité.
Alors, quelle est l'origine, la genèse de ce livre coécrit avec de nombreux auteurs ?
Alors, il faut dire un mot du contexte, c'est que l'Église catholique est en ce moment dans un synode. Alors, un synode, ça veut dire que le pape demande l'avis non seulement des évêques du monde entier, mais même des catholiques du monde entier. Et donc, diocèse par diocèse, c'est-à-dire bout d'église par bout d'église, on a travaillé sur des questions, notamment qui est présent dans nos églises, mais aussi qui n'y est pas. Comment faire pour que ceux qui sont assez largement rejetés ou ignorés dans notre société, ils aient vraiment leur place dans notre Église? De quoi notre Église a besoin pour bouger, pour répondre aux appels de Dieu, mais aussi pour répondre aux appels des gens qui nous entourent? Voilà, il y a tout ce chemin de synode. Et du coup, une question importante pour le pape François, qui en parle souvent, comment on fait pour que les plus pauvres, les gens à qui on ne demande pas leur avis d'habitude, ils donnent aussi leur avis sur la vie de l'Église et pour que leurs paroles soient entendues dans l'Église?
Alors donc, vous dressez dans ce livre un constat douloureux. Il ne suffit pas d'inviter les plus pauvres à parler. S'il n'existe pas un cadre d'écoute réel, alors la parole des plus pauvres ne produit aucun effet, aucune transformation. Vous y allez droit dans vos bottes.
C'est vrai, je crois qu'il ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions pour dire on va parler avec les plus pauvres. Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, il faut vraiment attendre quelque chose de leur part. Et ça, c'est contre-intuitif, parce que nous, on a tendance à se dire qu'on va donner des choses aux gens. Parfois même, on est dans une société où on pense que si les gens sont pauvres, c'est parce qu'ils ne savent pas s'y prendre dans la vie, parce qu'ils n'ont rien compris et qu'il faut leur expliquer. Alors là, on fait exactement le constat contraire. On veut apprendre quelque chose d'eux. Et tant qu'on ne veut pas apprendre, alors on n'a pas une écoute vraiment ouverte. Et donc, si on veut entendre leurs paroles, il ne suffit pas de leur tendre un micro, par exemple. Il faut vraiment prendre le temps d'un échange de paroles, d'un cheminement avec eux, pour qu'ils puissent vraiment parler, vraiment dire ce qu'ils ont à dire librement et pour que ce soit reçu.
Si vous aviez à vous présenter aux auditeurs qui prennent en cours cette émission, qu'est-ce que vous voulez bien dire de vous, dans votre itinéraire de vie scolaire et professionnelle peut-être, et puis votre mission au Havre comme curé?
Alors je peux dire que je suis un Normand qui a grandi près de Fécamp, je le disais tout à l'heure. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup marcher dans le pays de Caux, par exemple. Et puis, je suis prêtre depuis 8 ans, je suis au Havre, dans les quartiers nord du Havre, et puis à l'église du Sacré-Cœur, et puis j'enseigne la théologie à Paris, au Centre Sèvres.
Alors, votre livre intitulé « Les derniers seront les premiers », paru aux éditions de l'Emmanuel en 2022, fait aussi allusion au synode. Vous en parliez rapidement en première partie d'émission. Peut-être quelques mots de précision concernant ce terme technique employé par l'église, qui signifie « marcher ensemble ».
Quand on marche dans un groupe, on a toujours tendance à laisser quelqu'un derrière. On a toujours tendance à marcher au rythme de celui qui va le plus vite. Si tu marches tout seul, tu vas aller vite. Si tu marches avec d'autres, tu vas aller loin.
Et dans votre livre, vous jouez aussi le rôle de journaliste, François Audinet, puisque vous interviewez des personnes comme Christophe Théobald, qui est théologien. Comment se fait le choix de cet intervenant pour votre ouvrage, qui est un collectif ?
Christophe Théobald est quelqu'un qui est attentif dans son travail de réflexion au fait qu'on est tous confrontés à des fragilités. Et on peut dire que les plus pauvres, souvent, ils leur tombent dessus toutes les épreuves qu'on peut imaginer, et souvent un peu toutes les épreuves en même temps. Il y a un côté où on peut être comme enchaîné par toutes ces épreuves qui viennent l'une après l'autre, un peu sans discontinuer, sans s'arrêter. Et ce que Christophe Théobald nous dit, je crois, c'est que quand on va à la rencontre des personnes dont la vie est la plus difficile, des personnes les plus précaires, on est aussi confronté à nos propres fragilités et aux fragilités qui sont celles de toute l'humanité. Il dit aussi que rencontrer les plus pauvres ou les plus fragiles, ça révèle notre fragilité collective. Ça révèle que on est peut-être moins soudés que ce qu'on pensait. Quand on va vers les plus pauvres, on découvre que notre collectif, notre société, ce qui est en commun, c'est peut-être moins assuré, plus fragile que ce qu'on aurait espéré. Mais justement, habiter, reconnaître cette fragilité-là, c'est nous donner la chance de prendre soin les uns des autres en essayant de n'oublier personne.
Alors prenons un exemple concret, illustré avec votre pastoral, puisque vous êtes curé dans les quartiers nord du Havre. Comment cela, ça se met en place concrètement dans ces quartiers-là? Qu'est-ce que vous proposez?
Alors dans ces quartiers, on propose un certain nombre de groupes spécifiques où chacun va pouvoir s'exprimer, chacun va pouvoir prendre la parole avec des personnes qui vivent un petit peu la même chose que lui. Je pense à des groupes de l'Action catholique des femmes dans lesquels il y a des femmes pour qui parfois la vie est difficile, pas toutes bien sûr, mais elles vont pouvoir échanger les unes avec les autres, se soutenir. Je pense à des groupes comme les Amis de l'Évangile où là il y a des personnes pour qui souvent la vie est vraiment difficile avec une certaine expérience de la précarité et où on va pouvoir partager le repas ou partager le café et puis partager aussi sur l'Évangile, c'est-à-dire que chacun va pouvoir reconnaître comment Dieu est présent dans sa vie. Pour moi, il y a là quelque chose de très important, c'est que dans notre paroisse, on essaie que les personnes pour qui la vie est la plus difficile, ce n'est pas celles qui vont devoir tendre la main pour qu'on leur donne des choses, mais c'est elles qui vont apporter quelque chose pour construire la communauté tout entière. Et ça, je crois, c'est vraiment un renversement qui est essentiel.
Est-ce qu'il y a des partages avec les autres paroisses du Havre, vous qui êtes curé dans les secteurs nord?
Alors il y a bien sûr des partages avec d'autres paroisses, il y a aussi des partages avec d'autres religions. Je pense à un groupe de femmes de notre paroisse qui partagent avec un groupe de femmes de la mosquée qui se trouve à côté. Il y a bien sûr des partages, j'aurais tendance à dire, plus on part des plus petits ou des plus fragiles ou des plus pauvres, et plus il y a de la place pour tout le monde, et plus le partage est possible et où chacun peut trouver sa place.
Les personnes marginalisées ne sont pas sans voix, elles parlent, se manifestent, souvent même elles crient. Pourtant, nous ne les entendons guère. En quoi ces voix nous dérangent-elles?
Alors je pense que ces voix, elles nous dérangent au moins pour deux raisons. D'abord parce que on est beaucoup à être des gens un peu stressés. On a des emplois du temps, on doit faire ceci, on doit faire cela, on doit acheter ceci, consommer cela, et on n'a pas très envie de se laisser déranger. En plus, il faut que ce soit rentable. Et alors évidemment, quand la voix de quelqu'un qui exprime une détresse ou une demande ou juste qui a besoin de temps vient nous déranger, eh ben on est mal à l'aise. Ça sort de nos cadres. Et puis, la deuxième raison, c'est que l'appel des plus pauvres, il vient nous chercher au plus profond de nous-mêmes. Dans une zone où c'est pas si confortable de se tenir, et ça nous fait un peu peur. Si on veut vraiment rencontrer quelqu'un qui nous appelle, vraiment, quelqu'un qui est dans une situation difficile, eh ben ça va nous-mêmes nous emmener vers ce qui, à l'intérieur de nous, est fragile, incertain. Et ça, si on ose y aller, c'est comme traverser un peu la nuit. Alors au bout, il y a une belle lumière, donc ça vaut la peine de faire cette traversée, mais on a quand même un peu la trouille.
À la question, alors comment pouvons-nous favoriser la participation des plus pauvres à la vie paroissiale? Alexandre Joly répond dans ce livre, « Les plus pauvres seront intégrés à la communauté paroissiale quand ils sentiront vraiment qu'ils y sont chez eux. » Le fait d'être curé dans les quartiers nord du Havre, qu'est-ce que ça vous fait découvrir de l'humain?
D'abord, ça me fait découvrir la diversité des cultures. L'endroit où je suis est un lieu dans lequel on exprime beaucoup de cultures différentes. Ensuite, comme dit parfois Étienne Grieux, ça me fait découvrir des paysages. Étienne Grieux dit que parfois les gens les plus précaires, ils ont comme traversé des pays que les autres ne connaissent pas. Et alors, c'est pas en soi une joie parce que personne ne souhaite être dans la précarité, dans la difficulté. Il ne s'agit pas de souhaiter ça. Non, non, pas du tout. Mais du coup, les personnes qui ont cette expérience de la précarité, de la souffrance, on pourrait dire aussi de la grande maladie, ils ont des choses à nous apprendre sur l'humanité, sur notre fragilité. Et justement, ce synode, à la demande du pape François, il nous invite à nous interroger qui sont nos compagnons de route, comment est-ce qu'on fait route avec eux, et puis comment est-ce que sur cette route, on sait s'arrêter pour vivre des rencontres, on sait redémarrer, on sait avancer, et comment sur ce chemin-là, Jésus est présent.
Pour quel lectorat cet ouvrage qui a pour titre « Les derniers seront les premiers » ?
Clairement pour tout le monde, ce n'est pas un livre compliqué à lire, ce n'est pas un livre fait pour des spécialistes ou pour des professeurs de théologie, c'est vraiment un livre fait pour tous ceux qui sont intéressés par l'avenir de l'Église d'une part et par la rencontre de personnes plus en précarité d'autre part.
Est-ce que ça peut permettre éventuellement dans des quartiers populaires de Normandie ou des personnes qui voudraient se retrouver et échanger à 5 ou 6 autour de cet ouvrage? Ça peut être l'occasion de lire justement les différents témoignages de celles et ceux qui sont intervenus dans ce livre?
Tout à fait. Et il y a même, à la fin de chaque parole, des questions, justement, pour réfléchir. Alors, soit tout seul, bien sûr, si on veut, mais aussi en groupe et pour en discuter. Donc, c'est tout à fait un livre qu'on peut lire en petits groupes. Il y a dans chaque diocèse, dans chaque église locale, il y a ce qu'on appelle une diaconie diocésaine.
Diaconie, c'est-à-dire ?
Alors, la diaconie, c'est ces services qui est chargé de vivre la présence de l'Église dans les quartiers populaires et auprès des personnes pour qui la vie est plus difficile. Alors, ces diaconies, bah, évidemment, elles sont appelées à travailler ensemble et on espère que ce travail ensemble produira des échanges fructueux.
Merci François Houdinet. Je rappelle que vous êtes curé dans la paroisse du quartier nord du Havre et vous avez dirigé cet ouvrage qui est paru aux éditions de l'Emmanuel et qui a pour titre « Les derniers seront les premiers ».
Merci à vous.